France Inter.
Bonjour à tous. Février, c'est traditionnellement le mois des défilés de mode dans la capitale, la vitrine de la haute couture, secteur du luxe dans lequel la France excelle. Mais derrière cette image glamour se cache une autre réalité. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour Jacques.
Avec vous, on va voir notamment que des agences recrutent des mannequins dans des camps de réfugiés et leur facturent parfois leurs frais de séjour. Et puis nous recevrons Marc Andevelde du magazine Marianne. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, on verra qu'Aéroport de Paris a lui créé une filiale aux activités très douteuses en Libye. Pour éviter un procès en corruption, la société a discrètement d'ailleurs accepté de payer une amende de près de 15 millions d'euros.
Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Chaque jour, créateurs et grandes maisons dévoilent leur collection de prêt-à-porter. La Fashion Week, c'est aussi un défilé de stars venus assister au plus grand show.
Paris reste la capitale du monde de la mode.
Voilà un extrait d'un reportage de TF1 consacré à la Fashion Week qui s'est déroulé il y a 15 jours à Paris. On comprend à l'entendre que le secteur se porte bien. Il affiche d'ailleurs un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros, rien que pour les sociétés françaises. La France qui est d'ailleurs toujours considérée comme la capitale de la mode, Anne-Laure Barral.
Oui, il existe une centaine de grandes maisons à Paris dont la moitié sont historiquement françaises. Vous avez des fleurons comme LVMH qui a les marques Vuitton et Dior. Mais vous avez aussi Kering qui a Gucci, Balenciaga, Saint Laurent. Il y a enfin Chanel et Hermès. La mode de luxe emploie près de 250 000 personnes, dont 32 000 dans la confection, avec un rythme de production plutôt soutenu.
Et comme le cinéma a le Festival de Cannes, la mode, elle aussi, a ses grands rendez-vous.
Oui, vous avez évoqué la Fashion Week à Paris. Et ce n'est pas qu'une fois par an. En fait, des rendez-vous incontournables pour dévoiler les prochaines tendances. Les maisons en ont beaucoup d'autres. Écoutez à ce sujet, Pascal Morand, le président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Il y a 6 événements par an. Formellement, il y a 2 Paris Fashion Week qui concernent l'homme, la mode masculine. Il y a 2 Fashion Week également de mode féminine qui ont lieu fin février, début mars et fin septembre, début octobre éventuellement. Et puis, il y a la haute couture. La semaine de haute couture a lieu également 2 fois par an. Certaines marques font de la haute couture. C'est le cas de Chanel et de Dior. Je pourrais citer le cas de Maison Margiela, de Schiaparelli également. Par contre, des marques comme Saint Laurent, comme Hermès, comme beaucoup d'autres, ne font pas de haute couture. Et les pré-collections, donc, comme le nom l'indique, précèdent la collection qui est montrée sur le podium. Et tout ça, quand c'est bien géré, ça permet aussi d'éviter d'avoir des surstocks, etc., etc.
Et donc, c'est aussi là qu'on a, c'est surtout pour ça d'ailleurs, une idée de ce que sera la mode de demain. Bon, maintenant, tout ça, Anne-Laure, ça s'adresse à un public qui a plutôt les moyens.
Alors, c'est vrai qu'une robe haute couture à 500 000 euros, on ne la produit qu'à un exemplaire. Ce qui est moins le cas pour les collections prêtes à porter ou les accessoires comme les sacs, les chaussures, les parfums. Et l'image de la France joue un grand rôle dans leur prix. Les marques mettent toujours en avant la provenance française, le made in ou design in Paris, pour pouvoir vendre plus cher.
Ouais, sauf que derrière cette apparence de luxe, je le disais, il y a une autre réalité.
Effectivement, quand on regarde l'envers du décor, on se rend compte qu'il existe une très grande précarité pour celles et ceux qui travaillent au sein des studios de création, y compris dans des maisons de luxe qui vendent leurs produits très chers. Écoutez par exemple ce qui est arrivé à Christine Fung en 2020, alors que cela faisait 5 ans qu'elle était la directrice artistique de la marque Léonard.
Le deuxième jour du Covid, ils m'ont remercié avec une lettre d'avocat disant qu'ils mettaient fin à mon contrat jusqu'à nouvel ordre. Et c'était hyper violent à vivre, évidemment, puisqu'en fait, à ce moment-là, même les femmes de ménage ont conservé leur salaire. Elles étaient quand même protégées et je me suis sentie vraiment extrêmement lâchée par une marque pour laquelle j'avais été aussi le cœur, le cerveau, les mains et les yeux avec la vision créative. Et la violence de ce milieu, elle est intrinsèque, elle est permanente et j'en étais témoin à tous les chapitres.
À tous les chapitres, c'est-à-dire ?
Alors, elle a occupé plusieurs postes et elle a toujours fait le même constat. Que vous ayez un bon salaire ou pas, votre statut est très précaire. Tiffaine Bonneau, elle est styliste depuis 15 ans. Elle a travaillé comme prestataire indépendante pendant 2 ans pour Maison Margiela, dont John Galliano est le directeur artistique. Et elle occupait le poste de head designer.
Le head designer, c'est celui qui va être en direct avec le directeur ou la directrice artistique, en fait. Je travaillais avec, du coup, sur la femme et l'homme, et j'avais en dessous, moi, une designeuse et un designer, et on avait une assistante et un stagiaire. Le designer et la designeuse étaient en freelance, tous les deux, et la seule qui avait, du coup, un contrat en CDI, c'était l'assistante. Personne n'était employé.
Ouais, on a des contrats courts, mais dans un milieu artistique où les tendances évoluent très vite, en même temps, c'est souvent le cas, non ?
Oui, pour des CDD, mais là, on parle de prestataires indépendants. Et leur demander d'encadrer des salariés de l'entreprise, ce n'est pas tout à fait légal. Mais la façon d'organiser le travail peut, elle aussi, peut-être poser problème. Écoutez ce que m'a confié une personne qui travaille toujours chez Margiela. Elle a préféré rester anonyme, nous avons donc fait lire ses propos.
C'est rare que l'on puisse débrancher son téléphone et on ne sait jamais trop si on peut avoir notre week-end ou pas. Pendant le Covid, au début, on a été confinés, mais très vite, on nous a demandé de revenir au bureau avec des dérogations pour faire des vêtements. Tu parles d'une activité essentielle. C'était dangereux. Il y a des gens fragiles à l'atelier. Un jour, un inspecteur du travail est même passé. Il a halluciné en visitant les locaux tellement on était nombreux.
Ils étaient trop nombreux parce qu'on était en période Covid ?
Oui, mais c'est plus large que ça. D'autres personnes nous ont fait part de ces injonctions à travailler le week-end, à venir au bureau plutôt qu'à télétravailler ou à annuler des congés. Et quand cela concerne des salariés indépendants, c'est clairement un problème pour maître Ariane Sostras, avocate en droit du travail.
On se retrouve avec des gens qui sont embauchés en freelance, mais qui en réalité exécutent leur mission comme un contrat de travail. Et à partir du moment où on impose à un freelance des horaires de travail, où on va lui donner un avertissement, où on va l'empêcher de partir en vacances, ou en tout cas avoir un regard sur lui, là, il y a un risque très important de requalification de la relation de freelance en un contrat de travail. Et à ce moment-là, les conséquences sont très graves pour l'employeur, puisque c'est souvent dans le cadre d'un contrôle URSSAF qu'il y a ces requalifications, ou lorsque le freelance, qui avait pour seul client finalement l'entreprise pendant plusieurs années, perd son contrat du jour au lendemain, c'est à ce moment-là qu'on a des contentieux et ça peut coûter très cher à l'entreprise puisque elle peut être amenée à devoir payer sur 5 ans les charges sociales. Donc c'est énorme, sans compter les pénalités pour travail dissimulé, etc.
Et des contentieux, il y en a eu.
Oui, la société Margiela a été poursuivie au prud'homme par plusieurs ex-employés pour faire annuler leur licenciement et même pour harcèlement moral.
Et chez Margiela, on en dit quoi de tout ça ?
Alors, on nous a répondu que le bien-être des employés était une priorité et que l'entreprise est attachée, je cite, aux valeurs fondamentales de respect, de collaboration, de transparence et d'intégrité.
Voilà qui est joliment dit. Et sinon, ça paye bien, la mode de luxe ?
Alors, pas toujours. Voilà ce que nous a confié un photographe qui, lui, a travaillé pour une autre marque de luxe pour une séance photo il y a 2 ans. Nous avons modifié sa voix pour le protéger.
J'ai été payé 1 500 € pour réaliser une série d'images. Et à partir du moment où j'ai demandé des précisions sur le domaine d'exploitation, les territoires, le nombre de pièces qui allaient être produites avec les images, tout à coup, c'est devenu très obscur. Ils n'avaient pas la possibilité de répondre à mes questions. Pour renégocier le contrat de départ, ils ont essayé de nous faire pleurer en disant que c'était une jeune marque, que c'était compliqué pour eux, alors que ça fait partie des marques qui ont fait l'un des plus gros chiffres d'affaires après le Covid en France.
Et donc, ça s'est terminé comment ?
Eh bien, il a fait le travail à ce tarif parce qu'il espérait avoir une autre collaboration mieux payée grâce à cette première expérience. Mais écoutez à ce sujet Julia Mancitieri. Elle est anthropologue à l'université de Lausanne et de Bruxelles. Elle étudie le secteur de la mode depuis 10 ans et elle constate que beaucoup de personnes y travaillent pour pas grand-chose.
Ce que moi j'ai vu et que je continue de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de travail gratuit. On est payé autrement qu'en argent. On est payé à la fois en espoir, on est payé en visibilité. Dernièrement, j'ai eu affaire à un photographe qui avait emprunté 50 000 € à la banque pour organiser une prise de photo pour un magazine sur une plage aux Caraïbes. Les gens qui tiennent, qui font carrière, sont des gens qui ont pu travailler gratuitement pendant des années.
Ouais, ce qui est quand même effectivement un problème. Maintenant, vous avez identifié d'autres situations encore plus problématiques.
Oui, cette fois plutôt liées à l'ambiance de travail. Voilà ce que nous a confié l'ancienne assistante d'un grand directeur artistique. Elle aussi a préféré rester anonyme. Nous avons donc fait lire ses propos.
Je n'avais pas le droit de sortir du studio pour manger ou même pour aller aux toilettes. Il fallait que je demande l'autorisation. À force d'avoir des remarques sur ce que je faisais, sur comment je m'habillais, j'ai pris rendez-vous avec la DRH pour parler de ma situation. Mais il ne s'est rien passé. Et puis je suis tombée malade. Je ne veux pas porter plainte parce que je veux continuer à travailler dans le monde de la mode.
Effectivement, assez troublant d'entendre ça. Mais c'est fréquent, ça, ce type de management ?
Alors, c'est difficile à quantifier, mais écoutez l'expérience qu'a vécue Charlotte lorsqu'elle était en stage chez une créatrice de mode il y a quelques années.
Quelques mois avant la Fashion Week, donc on a des horaires qui se sont de plus en plus allongés. On n'avait plus de week-end, plus de jours de repos. On ne mangeait plus dehors. On était tous ensemble dans l'atelier avec une armée de stagiaires. Il y avait peut-être 3-4 employés pour nous encadrer. On était majoritairement des stagiaires de 2 mois, donc conventionnés mais non payés. Moi, je commençais à midi, à peu près, hein, et je partais vers 4 heures du matin. Un jour, j'ai mal, je ne sais pas pourquoi. Donc, on m'emmène à l'hôpital quand même. Je suis juste pâle, j'ai une petite tension. La seule prescription qu'on me fait, c'est « reposez-vous ». Quand je repasse à l'atelier, on veut que je continue à travailler, même alité. On me dit, prends du tissu, tu sais, tu fais partie de cette collection, t'as pas envie de me décevoir. Bon, bah oui, bien sûr, moi j'ai pas envie.
Mais il existe des règles quand même, Anne-Laure, des conventions de stage, ça existe ?
C'est vrai, depuis des manifestations de stagiaires dans le monde de la mode en 2015, les écoles et les DRH sont plus exigeantes sur le respect des horaires pour les jeunes en formation. Mais Tiphaine Bonneau, styliste depuis 15 ans dans la mode, considère que les stagiaires sont encore souvent utilisés comme des salariés.
C'est un peu le système, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de budget pour un assistant, on prend un stagiaire, quoi. Enfin, c'est même pas... Ça se questionne pas. En vrai, souvent, le stagiaire, il a un poste, en fait, clairement. Enfin, moi, les stages que j'ai faits, c'était des vrais postes. Et à l'époque, on n'était même pas payés. Ça a un peu changé, mais on retombe toujours un peu sur le même profil. Moi, aujourd'hui, si je dois prendre un stagiaire, je le prends pas pour un mois, parce que je veux qu'il soit payé. Donc, je demanderai à un stagiaire pour au moins 3 mois, pour être sûr qu'il ait une rémunération.
Et une rémunération de quel ordre ?
Alors autour de 600 euros, même si certaines grandes maisons sont plus près du SMIC, ça paraît peu, mais faute d'emploi, certains sont obligés d'enchaîner les stages. Et c'est le cas d'une jeune femme qu'a rencontrée l'anthropologue Julia Mancitieri.
C'est quelqu'un qui a fait 4 ans de stage. Des fois elle était payée, des fois elle n'était pas payée, des fois il y avait des sortes de compensations en objet. Donc le problème c'est pas le stage, le problème c'est la multiplication des stages. Toutes et tous, on a incorporé que si on veut plus de notre travail, eh bien il y en a 100 derrière. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mode, dans le luxe, il y en a pas 100 derrière vous, il y en a 100 000. Et il y en a 100 000 pour des métiers qui ne sont pas payés.
Et c'est d'autant plus préoccupant qu'il y a effectivement de plus en plus de candidats chaque année sur le marché du travail. Il y a en tout plus d'une centaine de formations en France, sans compter les écoles de commerce qui proposent aujourd'hui une option mode et luxe.
Ce qui fait effectivement beaucoup de monde.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que dans le secteur de la mode, on a souvent recours à des précaires sur lesquels on met beaucoup de pression et qu'on rémunère parfois très peu, Anne-Laure Barral. Mais pour autant, il n'y a pas énormément de procédures contre les grandes maisons de mode.
Effectivement, nous avons bien trouvé plusieurs cas de salariés qui attaquent au prud'homme leur société pour harcèlement moral, mais ils sont souvent déboutés par les tribunaux. Il faut dire qu'il est très difficile pour eux d'obtenir des attestations de la part de leurs collègues, comme l'explique Maître Cécile Cabanadro, avocate en droit du travail.
C'est difficile à obtenir parce que soit les salariés sont encore en poste et ne veulent pas se voir reprocher implicitement ou explicitement d'avoir fait une attestation, c'est-à-dire d'avoir pactisé avec l'ennemi, soit les salariés ne sont plus en poste et sont partis en négociant leur départ. Et systématiquement, dans les protocoles, il y a des clauses dans lesquelles, dès lors que vous recevez une indemnité transactionnelle, vous vous engagez à ne jamais établir d'attestation contre la société.
Oui, mais quand on a dit ça, Anne-Laure, on n'a rien dit, parce que ne pas avoir d'attestation, ça ne prouve pas pour autant que les comportements toxiques existent, non ?
C'est vrai, mais selon Maître Cabanadreau, dont 25% des dossiers concernent le secteur de la mode, il y a tout de même des comportements que l'on retrouve souvent au sein des studios de création.
Il y a quand même une forme de système dans le milieu de la mode, clairement, avec l'excès du comportement du manager, un comportement toxique, des propos complètement inadaptés, des gestes inappropriés. Ça peut être de jeter un vêtement à la figure du salarié en disant qu'il faut tout refaire, que ça va pas du tout, etc. Ou taper, donner une grande tape dans le dos, et ceci devant toute l'équipe, en disant que c'était une forme de plaisanterie, etc.
Donc apparemment, le diable s'habille en Prada ne serait pas une caricature.
Ouais, là, on ne parle que des stylistes, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé des mannequins, et leur sort n'est pas forcément plus enviable.
Non, parce que ceux qui vous font rêver, Jacques, pendant les défilés, dans les magazines, eh bien non seulement ils ne sont pas toujours payés, mais ils se retrouvent parfois même endettés.
Et pourquoi endetté ?
Eh bien, écoutez Ekaterina Osiganova, une ex-mannequin russe, qui a créé l'association Model Law, une sorte de syndicat pour les modèles. Elle explique comment ça se passe pour une mannequin étrangère que l'on fait venir à Paris pour des défilés.
L'agence, c'est une grosse agence, elle dispose d'un certain capital immobilier, donc elle peut les loger dans les apparts qu'elle possède, mais elle les fait payer des loyers. Et les conditions, on va dire, de vie dans ces appartements, c'est pas ce qu'on peut imaginer. Il y a à peine des travaux dedans, il y a à peine une cuisine. Et il y a là aussi une notion d'argent de poche, donc comme si on était des petits enfants, voilà, à qui on donne l'argent pour manger. Et il était aux alentours de 70 euros par semaine pour se restaurer, pour se déplacer à Paris, donc c'est pas donné. Donc vous voyez un peu l'image.
Et comment on fait pour vivre avec 70 euros par semaine ?
Eh bien, très vite, elles vont s'endetter, hein, jusqu'à 3000 euros en quelques jours pour celles dont nous avons pu voir les dossiers, sachant qu'un défilé pour une débutante, ça peut être payé qu'entre 400 et 1200 euros. Si le mannequin décroche beaucoup de défilés et un contrat publicitaire, ça va. Mais s'il n'est pas sélectionné, ça se complique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en octobre dernier, le Sunday Times a révélé que des agences recrutaient de jeunes gens dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, pour défiler quelques jours à Paris ou à Londres.
C'est vrai que ça peut peut-être choquer, mais en même temps, si ça leur permet de s'en sortir, c'est vraiment un problème ?
Eh bien, le problème, c'est qu'ensuite, certains ont été renvoyés dans leur camp et qu'on leur a demandé de régler leurs dettes. C'est ce qui est arrivé en 2022 à Nia Balang, qui a témoigné sur les réseaux sociaux.
Ma vie était très dure, jusqu'à ce que je signe pour faire mannequin avec des agences. Ils m'ont emmené à Paris pour la Fashion Week. Malheureusement, au bout d'une semaine, ils m'ont dit que je devais repartir en Afrique. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas rentrer là-bas, que j'étais une réfugiée, que là c'était la chance de changer ma vie et celle de ma famille qui vit au camp de réfugiés.
Et ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, sa recruteuse nigériane est alors intervenue pour lui demander, on va dire, fermement de partir. Leur conversation a été enregistrée. Et écoutez comment cet agent s'adresse à la jeune réfugiée.
C'est quoi ton problème ? Ah, j'aurais dû le savoir. Laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Ils vont t'emmener dans un camp. Tu seras dans un camp. Tu crois que c'est facile ? Tu crois que c'est l'Amérique ici ? Tu crois qu'on va te donner directement un appartement ? Non, ici, on va t'emmener dans un camp. En Europe, on va dans un camp. Je savais bien que tu préparais quelque chose, je le savais.
Ouais, effectivement, tu préparais quelque chose, qu'est-ce qu'elle veut dire là ?
Alors la recruteuse s'est justifiée en disant que Nia Balang voulait demander l'asile en France alors que tous les mannequins sont censés rentrer chez eux après la Fashion Week.
Bon, on laissera chacun juger. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là.
Non, parce qu'une fois rentrée au Kenya, Nia Balang, la jeune mannequin, va avoir une drôle de surprise. C'est ce que m'a raconté Hugo Daniel, le journaliste du Sunday Times, qu'il a rencontré dans son pays.
Trois semaines après son retour au camp, elle a envoyé un email à l'agence pour lui demander une copie de son contrat et un résumé de ce qu'elle avait gagné. Elle a reçu un document lui montrant qu'elle devait rembourser 2700 euros, principalement pour son billet d'avion, la nourriture et l'hébergement en France. On lui a dit que si elle voulait travailler à nouveau comme mannequin, elle devait les rembourser. Et on lui a dit qu'il lui avait avancé ses frais et que ce n'était pas gratuit.
Ah oui, quand même. Et à l'agence qui l'a fait venir, on justifie ça comment ?
Eh bien, on affirme qu'on ne lui a jamais demandé de rembourser tout de suite sa dette, mais que l'agence doit signaler aux mannequins le montant de ce qu'ils leur doivent, pour des raisons fiscales. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Matteo Puglisi, le directeur de Select Monde, qui gère l'agence de Paris.
Nous, on a jamais demandé le remboursement de la dette à Nia Balang en particulier, à d'autres cas, tout de suite, mais surtout, nous, on doit demander le remboursement de la dette 2 ans après le dernier job ou après le dernier frais pour les mannequins. Pourquoi ça? Parce qu'en demandant le remboursement par lettre recommandée, on peut passer cette dette en perte. Ça, c'est une exigence fiscale. On a eu un contrôle fiscal sur 4 ans. La première chose que le contrôleur fiscal a demandé, c'était les reçus des lettres recommandées internationales avec accusé de réception pour la demande de remboursement de dette.
Et ça tient la route, ça, comme explication ?
Alors oui et non. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand un mannequin gagne de l'argent, il rembourse l'agence petit à petit. S'il change d'agence, le nouvel employeur rachète une partie de sa dette, un peu comme une dot. L'agence reconnaît d'ailleurs que quelques mannequins l'ont remboursé à la fin de leur courte carrière. Mais Maître Juliette Albou, avocate en droit du travail, s'interroge sur la légalité de ces frais réclamés par les agences.
Ça paraît complètement absurde et délirant quand on regarde les stipulations de la convention collective applicable aux agences de mannequins. On peut éventuellement, dans certaines conditions précises, aller se faire rembourser certains types de frais, mais certainement pas la totalité des frais engagés, sans même les rémunérer.
Et pourtant, si je vous entends bien, Anne-Laure, ça arrive.
Oui, nous avons en effet découvert que Select facture des frais d'hôtel, d'avion, de visa à certains de ses mannequins. Le responsable de l'agence, Matteo Puglisi, ne l'a pas nié. Et il nous a expliqué dans quel cas de figure cela pouvait arriver.
Une marque tombe follement amoureuse d'un mannequin. Donc ils disent, je le veux en exclusivité. La marque va payer tous les frais et va payer les frais du visa, les frais de l'hôtel, les billets d'avion. Donc là, c'est très bien payé et ça, tout va bien. Deuxième cas, il y a de l'intérêt de toutes les marques. Et donc, ils posent une option pour les prochains défilés. Je voudrais bien une option sur ça, sur ça, sur ça. Mais l'option n'est pas exclusive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, nous, avancer les frais. Et par la convention collective, ces frais, après, vont être sur les comptes du mannequin. Et si ça ne marche pas, elle repartira parce que les visas sont des visas de 3 mois.
Oui, dans ce cas-là, donc, le mannequin doit rembourser les frais de visa, d'avion, d'hébergement, etc.
C'est ça, sauf s'il n'a rien gagné. Hein.
Ouais. Et les grandes marques qui ont recours à ces agences, elles en disent quoi de ces pratiques ?
Alors, nous avons interrogé plusieurs marques, dont celle du groupe Kering, qui nous a répondu qu'une réflexion était en cours sur l'évolution de sa charte des mannequins. Et écoutez ce que nous a dit de son côté Pascal Morand, le président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Il nous semble que c'est des choses qui relèvent pas d'un système, d'une systématicité.
Les dettes des mannequins.
Mais je sais que les maisons sont très soucieuses de tout ça et que d'ailleurs nous préconisons un affichage social pour avoir toutes les connaissances sur tout ce qui relève les conditions de travail, l'équilibre homme-femme et tout et un ensemble d'autres facteurs. Nous avons d'ailleurs exprimé le regret que l'affichage social ne soit pas mis en avant avec autant de célérité dans les projets actuels.
Et parmi les pistes d'amélioration, il faudrait peut-être mieux contrôler la chaîne des intermédiaires qui travaillent pour les marques de luxe en France, faute de quoi ces marques pourraient bien devoir répondre de leurs agissements devant la justice, parce que la loi considère qu'elles sont responsables aussi des pratiques de leurs sous-traitants.
Ouais, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici, puisque ces agences, hein, on l'a compris, ont toujours fait écran en quelque sorte. Bien, merci Anne-Laure Barral. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire ou la réécouter, podcaster aussi cette émission sur l'appli Radio France, mais Secret d'Info, ça continue. Dans une deuxième partie, nous allons voir qu'Aéroport de Paris a réglé en toute discrétion une amende très importante pour se sortir d'une affaire embarrassante dans laquelle on reparlera de la Libye et de Kadhafi.
Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while, where there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the wall, and I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood, I'll be splitting the hat. An old AM radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky tonk, 'cause I got to take a break from it all. And the small town chatter and the know-it-alls, to a place where no one can call, and I won't hear the sirens or the maddening crowds, just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone, avoiding the pictures and the people back home, and I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul, yes, it's saving my skin, 'cause I love the laughter, the women, the wine. I just got
quand la country américaine rencontre le rock anglais, ça donne Dreamy Skies, et cet extrait, vous l'avez compris en reconnaissant la voix de Mick Jagger du tout dernier album des Rolling Stones.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Marc Andevelde, bonjour.
Bonjour.
Dans l'hebdomadaire Marianne, vous racontez les étranges pratiques qui ont été celles de la société ADP, autrement dit les aéroports de Paris, qui sont possédés à 50% par l'État, précisons-le. En décembre dernier, ADP a dû payer une amende de près de 15 millions d'euros pour des faits qui peuvent s'apparenter à de la corruption. Alors un mot pour commencer de cette procédure un peu particulière, ça s'appelle une convention judiciaire d'intérêt public, c'est comme ça qu'on lui a demandé de payer l'amende. En fait, ADP a accepté de payer cette amende, ce qui lui permet d'éviter un procès.
Oui, c'est bien résumé. C'est une innovation juridique qui est spécifique au droit français depuis la loi Saint-Pin II. Convention judiciaire d'intérêt public permet à des institutions morales, des entreprises, de négocier avec le parquet, ce qui lui permet de payer une amende, mais de dire « je ne suis pas coupable », même s'il y a des fortes présomptions.
« Je n'ai pas été condamné ».
Et ensuite, ça permet à la fois pas de procès public, donc pas de, comment dire, de mise à l'index médiatique notamment. Et
l'affaire
surtout,
est terminée.
L'affaire est terminée, en tout cas pour l'entreprise,
judiciairement
pour l'entreprise, pas forcément pour les personnes physiques au sein de l'entreprise, c'est la distinction, mais surtout ça permet à l'entreprise en question de pouvoir ensuite contracter des marchés à l'étranger sans être accusée d'avoir été impliquée dans une affaire de corruption.
Alors entrons dans le vif du sujet, voyons de quoi il s'agit précisément. En fait, ce qui a été reproché à ADP, ça date de 2005, sous la présidence de Jacques Chirac. À ce moment-là, l'Élysée pousse les entreprises françaises à passer des contrats avec la Libye, avec Kadhafi.
Oui, on est après la reprise des relations diplomatiques avec Muammar Kadhafi entre la France et la Libye. Ça commence sous Jacques Chirac, mais ça s'accélère. Quelques mois avant l'élection présidentielle de 2007, où on verra la victoire de Nicolas Sarkozy, et les contrats ADP en Libye, qui concernent trois aéroports, Tripoli, Benghazi et Sebha, sont signés exactement en juillet 2007, donc quelques semaines après l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et puis, il faut le rappeler, à l'époque, la Libye de Kadhafi, c'est un mélange, on va dire, entre les caisses de l'État et la caisse personnelle du leader, et parfois les lignes rouges ont été franchies.
Alors, on va reprendre ça un peu dans l'ordre. Donc, ce sont trois contrats contractés par ADP pour rénover, moderniser trois aéroports.
Alors, c'est plus que de la modernisation, c'est carrément, on va dire, la construction de nouveaux aéroports sur les anciens, parce que Muammar Kadhafi avait la rêve de faire un hub aéroportuaire, un peu comme Emirates à Dubaï.
Une charnière entre l'Europe et l'Afrique.
Une charnière entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, on parle quand même de contrats qui se montent pour Aéroports de Paris à plus de 100 millions d'euros. Et c'est des contrats de conception, de design des aéroports, c'est-à-dire tout simplement l'architecture, la conception des aéroports, et dans le cas de Tripoli, Aéroports de Paris supervisait le chantier et également gérait les sous-traitants. Si on compte l'ensemble des sous-traitants, c'est plus de 1,8 milliard d'euros de contrats, donc c'est des sommes considérables. Et d'ailleurs, il y a d'autres dossiers judiciaires à l'étranger qui concernent ces aéroports-là.
Et pour gérer ça, ADP va créer une filiale spécifique, et c'est là que ça va un peu déraper, parce que dans cette filiale, il y a notamment un des fils Kadhafi.
Oui, alors dans l'environnement de cette filiale, effectivement, ADP Libya, il y a des individus, notamment un certain Farage D, qui est directement impliqué dans le dossier et qui fait partie du clan de Saadi Kadhafi, qui est un des fils de Muammar Kadhafi. Et là, à la fois la justice française, mais également des rapports d'audit précédents ont démontré des transferts d'argent suspects. On parle notamment de 500 000 euros versés à un cadre de cette structure-là, et également des surfacturations. On parle jusqu'à 25 millions d'euros suspects de transferts d'argent. C'est les rapports que j'ai pu consulter, les rapports d'audit qui ont alerté la direction d'ADP
qui
à l'origine, il y a plus de 10 ans quand même.
Ouais, qui viendront plus tard et qui montrent que finalement il y a des rentrées d'argent, alors que paradoxalement les travaux, eux, ne se font pas.
Oui, Aéroports de Paris, devant la justice française, pour minorer son amende, explique que ces contrats, finalement, ont été déficitaires, alors qu'en réalité, les rapports d'audit ont démontré au contraire qu'il y avait des surfacturations sur les programmes et qu'en réalité, ADP avait recouvré largement une bonne partie des contrats sans avoir réalisé les contrats. Alors, officiellement, c'est parce qu'il y a eu la guerre de 2011 et donc les travaux n'ont pas pu être effectués. Mais aujourd'hui, quand vous vous déplacez sur ces trois aéroports, il n'y a que des ruines ou des débuts de travaux. Mmh. Et là, on parle quand même de sommes considérables pour l'aéroport de Tripoli. Si on compte l'ensemble des sous-traitants, donc sous la supervision d'ADP, encore une fois, on parle de 410 millions de dollars transférés par les autorités libyennes aux différents sous-traitants et également à ADP. Mmh.
Alors qu'il n'y a ni ascenseur, ni parking, ni climatisation, rien du tout.
Oui, j'ai interrogé des spécialistes du dossier, enfin au niveau ingénierie d'aéroport, justement, qui me disaient qu'en fait, à peu près seulement 20% des programmes avaient été...
Des prestations
avaient été réalisées, alors que plus de 80% des montants
avaient été encaissés,
tout à fait.
Et des montants dont on va voir qu'ils partent dans des endroits un petit peu étranges. Hein. De l'argent, il en part aux Émirats arabes, notamment dans la création d'un lotissement qui apparemment n'a rien à voir avec les aéroports. Et au passage, on se rend compte qu'il y a une commission de plus d'un million, en tout cas, il y a une somme d'1,2 million d'euros qui est versée à un haut fonctionnaire émirati et à sa société.
Alors ça, c'est un deuxième dossier qui est souligné par la justice. C'est effectivement un projet de lotissement aux Émirats, où Aéroports de Paris avait également tenté de récupérer des contrats d'aéroport, et c'est ce qu'on appelle les parts locales. Et donc le magistrat,
c'est un package en fait. On fait
du béton où on met en place des activités locales de sous-traitance. Et bon, on va dire les acteurs locaux sont un peu moins regardants sur les coûts ou les facturations des différentes structures. Bon, ça c'est un secret de polichinelle. Et il y a un autre élément extrêmement important, c'est que il y avait une autre filiale internationale d'aéroport de Paris, qui était présente au Liban. Et en fait, au Liban, pendant des années, cette filiale, qui a été depuis fermée, on va dire, centralisait les flux financiers d'aéroport de Paris sur l'ensemble de ses contrats, sur la sphère moyenne-orientale et d'Afrique du Nord. Mmh. Et là, les enquêteurs ont suspecté beaucoup de choses, mais pour l'instant, ils n'ont rien établi.
Oui. Alors tout ça change en 2013. Le vent tourne à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ADP, donc le siège, s'inquiète des pratiques de sa filiale en Libye. Et là, elle va porter plainte, c'est-à-dire que ADP porte plainte contre ADP.
Aéroport de Paris, effectivement, porte plainte pour abus de confiance à l'époque en août 2013.
Ce qui est une façon de dire on était au courant de rien.
Oui, enfin, c'est là où le diable se loge dans les détails, on va dire, parce que effectivement, quand il porte plainte en août 2013, il faut rappeler aux auditeurs que le parquet national financier n'existe pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait déjà eu un rapport d'audit qui était en train d'être finalisé auprès de la direction d'ADP. Et ADP n'a pas attendu la livraison officielle de ce rapport d'audit qui était déjà extrêmement alarmant, et ils ont préalablement anticipé. Ils ont posé,
de toute façon allait leur tomber dessus.
C'est ça. Ouais. Mais ça leur a permis, on va dire, au départ, d'essayer de gagner du temps, même si ensuite, aujourd'hui, le parquet national financier explique, pour justifier l'accord négocié, que Aéroport de Paris a entièrement collaboré avec la justice française, a mis en place de ce qu'on appelle des programmes de compliance en anglais, donc de conformité aux règles de lutte contre la corruption, et donc, en gros, a mis en place une opération main blanche au sein même de l'entreprise. Et on va dire, c'est l'histoire qui se termine comme ça pour Aéroport de Paris. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que du côté des cadres de l'entreprise, ils sont potentiellement toujours poursuivables.
C'est ce que vous disiez au début.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
En tout cas, l'affaire, si elle est close au plan judiciaire pour ADP, l'affaire sera en tout cas connue, puisque grâce à vous, maintenant, nous savons ce qui s'est passé, même s'il n'y aura jamais, on l'a compris, donc de procès. Merci Marc Andevelde. Comment Aéroport de Paris s'est racheté une vertu, c'est le titre de votre enquête, et je précise qu'on peut la consulter sur le site de Marianne, site payant, je le précise. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Adèle Caglar et Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.